Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Della Posta et avec Stéphane Vrignot, on va accueillir aujourd'hui un invité de marque, Nicolas Lapierre. 14 participations en 24 heures du Mans, 15 victoires en championnat du monde d'endurance, dont 4 en LMP2 aux 24 heures. Nicolas Lapierre, c'est la clé de voûte d'Alpine en endurance depuis le retour de la marque française dans cette discipline. Stéphane, tu as préparé toutes tes questions, tu es prêt?
Ah oui, ça là, va on être est prêt, là,
hyper
j'ai la
intéressant.
Pile, là. Oui, complètement, ça va être riche.
Alors, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous noter et à nous donner 5 étoiles, et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, dès qu'on produira un nouvel épisode, ça arrivera directement sur votre smartphone. C'est parti, on lance l'appel et on rejoint Nicolas Lapierre. Et on se connecte tout de suite donc avec Nicolas Lapierre qui est notre invité cette semaine dans Les Fous du Volant. Un immense merci Nicolas de nous rejoindre aujourd'hui dans Les Fous du Volant. Je resitue un petit peu, 37 ans Nicolas Lapierre, déjà ça passe vite. 14 participations aux 24 heures du Mans, 4 victoires en catégorie LMP2. Nicolas Lapierre, c'est aussi un ancien vainqueur à Macao en Formule 3. Quand on regarde la liste des vainqueurs, on se dit qu'il n'y a que des bons. Et Monsieur Lapierre en fait partie, vainqueur aussi en A1GP, et ça c'est d'un autre temps, en 2006. Bonjour Nicolas, on est ravis de vous accueillir.
Merci, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci pour ce petit résumé. C'est vrai que ça commence à faire.
Hein. Ouais, ça commence à faire un sacré palmarès, un sacré
les
parcours.
Années passent, les années passent.
On va parler évidemment d'Alpine, parce que là, je sais qu'au moment où on enregistre c'est Fous du Volant, je crois que vous rentrez d'une séance d'essai. Alpine prépare les deux dernières manches du championnat du monde d'endurance, qui auront lieu les deux à Bahreïn, avec une course de 6 heures, une course de 8 heures. Il y a encore pas mal de points à attribuer. Vous êtes avec vos deux coéquipiers, André Negrao et Mathieu Vaxivière, en troisième position au classement, derrière les deux équipages Toyota. La première question, c'est, il y a encore un coup à jouer. On peut aller chercher le titre devant Toyota. Mathématiquement, c'est possible. Sans être un doux rêveur, faut jouer le coup.
Non, jusqu'au bout, on va jouer le coup, c'est clair. Après, c'est sûr qu'on est un peu en retard. Ils ont fait un super début de saison. Honnêtement, Toyota, avec cette nouvelle voiture, on attendait à ce qu'il y ait quelques problèmes. Et puis finalement, ils font vraiment un début de saison sans faute. Nous, avec Alpine, c'est la première année dans cette catégorie Rennes, catégorie hypercar, et c'est vrai qu'on fait aussi un sans faute, mais en termes de performance, on est légèrement au-dessous d'eux, et du coup, ça explique la différence de points. On avait de bons espoirs aux 24 heures du Mans de profiter un peu du fait qu'ils aient cette voiture qui soit toute neuve, et finalement, ils ont fait vraiment une très belle course, et puis nous aussi, on a fait notre course, mais on a terminé à une superbe troisième position. Hein. C'est, comme j'ai dit, c'est la première année de l'équipe dans cette catégorie, et puis ça fait quand même un gros changement par rapport à la LMP2. LMP2 qui était une catégorie qui maîtrisait super bien, quoi. On avait vraiment eu de grands succès, et puis l'équipe elle dominait vraiment la catégorie LMP2. Après, ça fait quand même un step pour passer dans la catégorie Rennes, que l'équipe a super bien fait, qui a bien emmagasiné, mais c'est sûr que par rapport à des monstres comme Toyota qui sont là depuis des années, il manquait un petit quelque chose, et voilà, on a bien travaillé depuis Le Mans, là, pour faire un petit step à Bahreïn. Et j'espère qu'à Bahreïn, on sera un peu plus proche d'eux.
Avant de passer la main à mon copain Stéphane Vrignot pour poser la question suivante, on va quand même revenir juste deux secondes sur ces 24 heures du Mans, parce que entre le fait qu'il y avait eu quand même quelques alertes techniques chez Toyota sur les épreuves précédentes au championnat du monde, qui étaient sur des formats plus courts évidemment que les 24 heures du Mans, la pluie en début de course, sur le début de course, franchement, on se dit là, il y a vraiment tous les ingrédients pour qu'il y ait un scénario complètement fou, et bah oui, on est un petit peu cocardier, on se dit Alpine peut gagner. Vous y avez cru, vous aussi, au moment du départ. C'est vous, hein, Nicolas, qui avez pris le départ, qui avez fait les premiers relais. À ce moment-là, vous vous dites, voilà, on a vraiment, vraiment, on va les faire tomber.
Ouais, mais c'était l'idée, hein. On y a cru toute la semaine, hein. C'est sûr qu'on a vu toute la semaine qu'ils étaient un peu plus performants que nous. Ils avaient une super bonne vitesse de pointe, mais malgré tout, nous, on savait qu'on avait la fiabilité, qu'on avait un équipage solide. Et en tant qu'outsider, notre idée, c'était vraiment de leur mettre la pression jusqu'au bout, quoi. Et c'est vrai que toute la semaine, il a fait grand beau. Et puis, sur la grille de départ, 1 heure avant le départ, il y a eu une monstre traverse. Et il a plu, mais vraiment beaucoup. Et nous, malheureusement, on n'avait jamais roulé avec cette voiture sous la pluie. Et du coup, on a réussi un peu à faire face avec eux. Mais moi, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait un tête-à-queue à la sortie d'Indianapolis. On a perdu une trentaine de secondes. Et après, on a pu revenir dans le match. Et honnêtement, on était pas très loin d'eux. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, ils avaient un petit avantage. Ils avaient une seconde de mieux que nous, je dirais, sur la moyenne des 24 heures. Mais ça, tour après tour, sans problème technique, ben, ils ont pu creuser un petit écart. Et malheureusement, on n'a jamais pu venir les embêter au final, quoi. Donc, c'était un peu frustrant pour nous, mais malgré tout, voilà, on a fait une belle course, on termine pas si loin que ça. Et puis, ce qui était vraiment sympa, c'est de voir tout le soutien des supporters, des fans d'Alpine. Il y avait vraiment des tribunes qui étaient pas tout à fait pleines parce que malheureusement, la situation ne
Il y avait
permettait
une jauge,
pas
ouais.
encore, mais on a vu du bleu partout, quoi. C'était vraiment chouette. Et puis, la parade aussi avec Fernando qui a fait le tour avec la F1, c'était. Non, c'était vraiment super. C'était vraiment une bonne semaine, une bonne course pour Alpine.
On va en parler. Stéphane Vrigno, est-ce que tu as une première question à poser à Nicolas Pierre?
Alors, Nico, bah, tu nous donnes la transition entre l'endurance et puis la Formule 1. Tu as parlé de Fernando Alonso. Est-ce qu'il y a des formes de passerelle entre les deux entités? Et est-ce que tu as discuté un petit peu avec Fernando aussi? Il a une grande expérience aux 24 Heures du Mans. Qu'est-ce que tu as. Tu peux retirer de cette collaboration avec les deux parties d'Alpine.
Ouais, les passerelles se mettent gentiment en place. C'est vrai que c'est la première année où il y a vraiment un lien fort entre la F1 et puis l'endurance. Déjà, on court sous la même marque. Et puis voilà, tout le monde a envie d'aller dans le même sens. Il y a des passerelles au niveau technique, notamment en aérodynamisme, qui se mettent en place. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et on essaie de trouver une synergie pour la suite. Donc ça, c'est vraiment chouette. Le fait que Fernando Esteban, Laurent viennent à la course du Mans, c'était aussi un signe de montrer qu'ils étaient là, qui nous
Laurent Rossi, c'est
soutenaient.
le patron d'Alpine. Hein. Voilà,
Oui, tout à fait, pardon. Et qui viennent nous soutenir. Et puis, c'était chouette de voir ça. Après, Esteban, il venait de gagner sa première course. Donc,
En plus.
c'était sympa de l'avoir. Et puis, Fernando, lui, c'est un grand passionné de tout ce qui a quatre roues, mais c'est vrai qu'il aime particulièrement Le Mans. Et puis le fait qu'on court contre son ancienne équipe, Toyota, c'était sympa, quoi. On a partagé des petites anecdotes. Et puis, non, c'était chouette. Et voilà, j'espère que par l'avenir, le lien sera de plus en plus fort. On a eu la chance, après, la semaine d'après, d'aller à Spa pour voir la course de F1 aussi. Donc, c'était super intéressant. La
J'anticipe un
course.
peu, pardon Nico, on avait prévu de poser la question un peu plus tard. Genre un équipage Alonso, Ocon, Lapierre dans une Alpine aux 24 heures du Mans, ça serait pas mal quand même.
Ouais,
C'est ce
ça
que
serait chouette,
tu as essayé de vendre à Laurent Rossi?
malheureusement, maintenant, avec le nombre de grands prix dans la saison, je pense que c'est très difficile pour un pilote de F1 de faire Le Mans dans de bonnes conditions. Mais évidemment, que je pense que tout se réfléchit, tout est en réflexion et on verra de quoi l'avenir est fait. Mais en tout cas, il y a une bonne dynamique et on en profite.
Justement, qu'est-ce qui se prépare chez Alpine pour la suite? Est-ce que ça passe par un retour en LMP2 l'an prochain, avant une Hypercar pour la suite?
Moi, je crois que tout est en train de se décider. Hein. Pour l'instant, il y a vraiment rien de défini, mais je crois que rapidement, on devrait avoir des informations. Voilà, on croise les doigts.
T'en as
Clairement,
pas une ou deux à nous
Alpine.
donner là un peu en
J'aimerais
avant-première?
bien, j'aimerais bien. Non, on croise les doigts. Je pense que voilà, l'image Alpine, elle correspond bien à l'endurance. On a vu que l'endurance aimait aussi la marque Alpine. Donc, je pense qu'il y a une belle histoire à écrire. Maintenant, on attend sagement les décisions et on espère qu'elles soient bonnes.
Bon, moi, j'ai le sentiment quand même qu'on a bon espoir parce qu'on nous parle de plus en plus, et tu le fais toi-même, hein, des synergies qui sont en train de se mettre en place entre la structure, on va même presque dire entre les structures de F1, hein, parce que Alpine, c'est vraiment, il y a deux pieds. Il y a un pied à Enstone en Grande-Bretagne et un pied à Viry-Châtillon en région parisienne. Et puis donc, l'équipe d'endurance, qui est l'équipe basée sur l'effectif de Signatec, qui est à Bourges. On fait un peu de géographie aussi, comme ça, on travaille un peu la géographie française et anglaise. On nous parle de plus en plus de synergies. Si on met en place ces synergies, c'est pas pour les arrêter à la fin de l'année. Et puis, merci messieurs, au revoir, à une prochaine. Tu es d'accord avec moi?
J'espère. Écoute, pour l'instant, je peux pas rien te confirmer. Donc,
j'essaye. Hein.
Voilà, non, on croise les doigts, on attend. Et puis, évidemment, que c'est sûr qu'avec la nouvelle vague de constructeurs qui arrivent en endurance, c'est sûr que ça serait magnifique qu'Alpine en fasse partie. Ça va être vraiment, je pense, une nouvelle ère et je pense une des plus belles ères qui ait jamais connu l'endurance. Et il y a un intérêt de fou, quoi. C'est vrai qu'on parle de Peugeot qui va revenir, on ne sait pas si c'est l'année prochaine ou un peu plus tard, mais Peugeot qui va venir se batailler avec Toyota et puis rapidement Ferrari, on parle d'Acura, Cadillac, Porsche, Audi, enfin, ça va être vraiment un truc de fou, quoi. Et tout ça, c'est ceux qui ont été confirmés officiellement. On sait qu'il y en a pas mal d'autres qui sont dans les tuyaux, donc ça pourrait être, je pense, d'ici 2024, quelque chose d'assez incroyable.
Oui, parce que toi, tu as assisté, hein, de mémoire, ta première participation aux 24 heures du Mans, ça doit être 2007, si je ne m'abuse, ouais. Et tu as vraiment participé, été là dans la montée en puissance, la création du WEC, hein, le World Endurance Championship, avec Toyota, avec Peugeot d'abord, tu as roulé dans la Peugeot 908, toi aussi, avec Toyota, ensuite avec Alpine. On a le sentiment là qu'il y a un nouvel âge d'or qui est sur le point d'arriver en endurance. Forcément, ça doit séduire une marque comme Alpine. Et alors, et le pilote Nicolas Pierre aussi, j'imagine.
Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance. Quand je suis arrivé à Toyota, on était face à Peugeot, Audi, et puis ensuite Porsche qui est arrivé. Et là, déjà, honnêtement, c'était génial. C'était super intéressant au point de vue technologique aussi, parce que c'était le tout début de l'hybride. Donc, on a beaucoup appris. Et puis, c'est vrai que tout à coup, il y a eu une escalade de budget. Et c'est arrivé à des budgets qui étaient plus raisonnables, disons. Alors, au début, c'était justifié parce que c'était vraiment le développement technologique du système hybride, et puis les constructeurs étaient contents avec ça. Puis après, une fois qu'ils avaient développé ça, ben, finalement, ça coûtait trop cher. Donc là, il y a une nouvelle réglementation qui change complètement de cap, où on est sur des budgets beaucoup plus raisonnables, où on va avoir des voitures qui sont beaucoup plus proches les unes des autres. Donc, je pense que technologiquement, ça sera peut-être un peu moins la guerre que tout ce qu'on a pu connaître dans les années 2014, 15, 16. Mais en tout cas, ça attire beaucoup, beaucoup de constructeurs avec des voitures qui seront peut-être un peu plus simples pour les LMDH, en tout cas, qui seront issues d'une coque d'LMP2 avec un système hybride standard. Mais ça rend un truc beaucoup plus accessible et du coup, l'intérêt, il est juste monstrueux. Et puis au final, je pense que c'est ça qui est important, en tout cas pour les spectateurs, pour nous, les pilotes, et puis même pour les équipes, c'est qu'il y ait du monde sur la grille de départ, qu'on se batte avec des voitures qui soient proches les unes des autres et que le spectacle soit là, quoi. C'est vrai que malheureusement, ces dernières années où Toyota était un peu tout seul, je pense que c'était bon pour personne, quoi. Et là, voilà, on commence gentiment à rentrer dans cette nouvelle ère. On attend impatiemment la nouvelle Peugeot, là. On attend impatiemment sa première course. Et puis Ferrari qui arrive, incroyable, Porsche, Audi qui reviennent. Et les Américains qui viennent se mêler à cette bataille. Et puis forcément, c'est nos constructeurs européens qui vont aller aussi probablement aux États-Unis, aux 24 heures de Daytona, aux 2 heures de Sebring. Enfin, c'est juste le rêve pour moi qui je suis un pilote, mais je suis aussi un passionné de l'endurance. Et je trouve que c'est vraiment magnifique tout ce qui se passe. Ça prend vraiment du sens. Et on a vraiment impatient d'être en 2024.
Bah nous aussi, pour tout te dire. Voilà donc pour le, on va dire, la partie consacrée à Alpine et à l'endurance. On va passer, si tu veux bien, Nicolas Pierre, à la deuxième partie des Fous du Volant en ta compagnie. On va parler de la Formule 1, évidemment. Dans les Fous du Volant, tu te doutes bien qu'on ne peut pas faire l'impasse. Et on voudrait avoir l'œil de Nicolas Pierre sur le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, parce que ça faisait quand même plusieurs saisons qu'on avait quand même un Lewis Hamilton assez largement devant le reste du peloton. Là, cette année, il y a une vraie bagarre. On vient de vivre la 15e épreuve de la saison, avec la 100e victoire de Lewis Hamilton qui s'est imposée en Russie et qui mène au championnat de nouveau avec deux petits points d'avance sur Max Verstappen. Bah, d'abord, Nicolas, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce duel entre Lewis Hamilton, qui est vraiment au firmament, et Max Verstappen?
C'est magique. Honnêtement, ça faisait longtemps. Moi, personnellement, je crois que je n'ai jamais vraiment connu une bataille aussi intense. Et puis, à un tel niveau, en fait, j'ai l'impression qu'on ne se rend plus compte, mais le niveau de ces deux pilotes, il est juste hallucinant, quoi. Quand on voit... On regarde au championnat, Hamilton, il a quasiment le double de points de Bottas et Verstappen, pareil, quoi. Alors que Pérez et puis Bottas, c'est des super pilotes, quoi. C'est très, très bons pilotes. Donc, j'ai l'impression qu'on ne se rend plus vraiment compte, mais ils évoluent à un niveau qui est proche de la perfection. Et ça, à chaque Grand Prix, quoi.
Et quelles que soient les conditions, on l'a vu en Russie, hein.
Ouais, eux, ils sont à ce niveau-là. Et leur voiture aussi, quoi. Et c'est ça qui est magique, quoi. C'est qu'ils ont... deux voitures qui ont des caractéristiques un peu différentes, mais qui sont tous les deux au top, 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 et avec deux pilotes qui sont au top dedans, et ça fait un championnat de fou, des batailles super intenses, et honnêtement, c'est très plaisant à regarder. Et on ne sait pas comment ça va finir, quoi. C'est ça qui est incroyable. Hein. On s'était dit, ouais, avec la pénalité de Verstappen, Hamilton va prendre un peu plus de points, il va ouvrir le gap au championnat, et au final, rien, quoi. Ils sont toujours dans un mouchoir de poche. Ils se retrouvent quasiment à chaque Grand Prix en piste. Et après, évidemment, oui, ils s'accrochent. Alors, pour Verstappen, pour Hamilton, moi, je suis assez neutre et je trouve que, honnêtement, tous les accrochages, c'était proche d'un incident de course. Il n'y a jamais eu une grosse erreur d'un pilote ou d'un autre. C'est juste deux pilotes qui se battent à la limite de leur machine et qui lâchent absolument rien.
Stéphane, une question.
Oui, une petite parenthèse d'abord sur Verstappen. Lui, il a dit, c'est le pilotage à la dure. Est-ce que tu es favorable un petit peu à ça? On voit qu'il y a des frictions, ce que j'appellerais des block pass, c'est-à-dire qu'on range un petit peu l'adversaire sur le bord de la piste pour verrouiller un dépassement. Alors, ça fait des accrochages aussi. Est-ce que c'est la forme de course que tu apprécies, regarder en Formule 1, qui n'est pas dans l'esprit de l'endurance, hein, évidemment, où là, on essaie d'être safe quand même?
Ouais, nous, c'est sûr que sur une course de 24 heures, si on touche la voiture et puis qu'on perde la performance, parce que ces voitures, chaque fois qu'elles se touchent, elles sont quand même un peu endommagées, bah, sur 24 heures, on va le payer, quoi. En F1, c'est une approche qui est différente. Et parfois, le gain d'une position peut justifier, ben, voilà, une attaque un peu forte, comme on l'a vu à Monza, où là, c'était peut-être un peu au-dessus de la limite pour Max. Mais honnêtement, je trouve que quand Max est arrivé en F1, c'était un peu trop agressif, c'était limite dangereux, des fois ça jouait pas, mais là je trouve qu'il s'est recentré. Oui, c'est très dur, oui, c'est agressif, mais pour moi ça reste dans les règles. Et ok, peut-être à Monza, il a franchi un peu la barrière, parce que clairement on voyait qu'il était dans une position où à ce moment-là il est leader du championnat, si on s'accroche, ben, je reste leader, et on sent qu'il force, et c'est juste cette manœuvre qui, je trouve, était un peu... dépassé. Maintenant, il a pris 3 places de pénalité à la course d'après. Je trouve que la FIA, honnêtement, gère assez bien toutes ces histoires d'accrochage, de pénalités. Pour moi, l'accident de Silverstone était beaucoup plus du 50-50. Et je trouve que, honnêtement, tout est assez juste de la manière dont il juge les actions. Et pour l'instant, il n'y a rien à dire. Et j'espère que ça va continuer, parce que c'est sûr qu'ils vont se retrouver en piste.
Ouais.
C'est sûr qu'ils risquent d'avoir des frictions à nouveau. Mais tant mieux pour nous. Je veux dire, nous, on voit des batailles qui sont le premier tour de Silverstone avant l'accrochage.
C'est fabuleux, franchement.
Ah ouais, vraiment, ça donne des frissons.
Même pour un ancien pilote, excuse-moi Stéphane, même pour un ancien pilote, un ancien pilote de monoplace, ça reste un truc que tu vis, je sais pas, debout devant ta télé?
Ah, clairement, quand je vois ça, tu connais les circuits, le niveau d'attaque qu'ils ont dès le premier tour et les risques qu'ils prennent sans se toucher, c'est magnifique, quoi. Alors oui, forcément, il y a un moment, ben, ils s'accrochent, mais sur le nombre de centaines de mètres qu'ils ont passé l'un à côté de l'autre, sur le nombre de tentatives de dépassement, forcément, ça doit arriver, je veux dire, c'est inévitable.
Tu as connu Lewis Hamilton dans tes premières années en monoplace, en Formule 3, en GP2. Comment est-ce qu'il était? Est-ce qu'il avait déjà tous ses atouts? Il était très, très fort dans les dépassements, mais Quel pilote était-il et le regardais-tu comme un pilote déjà un petit peu spécial?
Oui, clairement, même en Formule Renault, moi j'étais à ma deuxième année de Formule Renault, on avait toujours un an de décalage. Donc lui était toujours dans sa saison de rookie. Et,
oui, 2002. Et
il avait gros potentiel, quoi. Après, Formule Renault, sa première année, c'était un peu brouillon. Il faisait des pole positions, mais c'était un peu brouillon. Au championnat, il n'avait pas forcément super bien figuré. Et en F3, pareil, quoi. La première année, quand il avait couru, c'était un peu brouillon. On sentait qu'il y avait vraiment un gros potentiel, quoi. Et par contre, l'année où il est arrivé en GP2, où là, son année de rookie, là, honnêtement, il avait fait une saison hallucinante, quoi. Là, il a franchi vraiment un gros palier où il avait non seulement la vitesse, mais aussi l'intelligence de course, la stratégie. Il avait été avec ART, l'équipe de Fred Vasseur, et là, il avait fait une saison mais complètement incroyable, quoi. Il était allé chercher le titre la première année et tout de suite, après, il était passé chez McLaren. Et là, il avait clairement dominé la saison de GP2 en rookie, quoi. Donc là, ça avait été vraiment le gros step.
Excuse-moi Stéphane, est-ce que toi quand tu l'as affronté en piste, on doit avoir une image qui traîne de toi sur le podium d'ailleurs avec Hamilton au Nürburgring en GP2. D'ailleurs il y avait José María López aussi sur le podium, il y avait du beau monde. Est-ce que toi quand tu l'as affronté dans ces années-là, tu imaginais qu'il irait, alors je dis pas battre le record de victoire en F1, mais en tout cas tu te disais bon lui ça sera un futur champion du monde, ça sera un très grand pilote?
Ouais, sous les années Formule Renault, Formule 3, oui, parce qu'on voyait que sa progression elle était quand même assez rapide. On voyait qu'il était vraiment soutenu par McLaren, donc il y avait vraiment toute une structure derrière lui. Son papa qui l'entourait vraiment bien, et voilà, il y avait le package complet qui était là, qui était présent. Donc on se dit, OK, il a une chance d'aller jusqu'au bout. Il est déjà supporté par une équipe de F1, donc il va certainement réussir à trouver un siège à moyen terme. Mais c'est vrai que le gros step, ça a été l'année de GP2, notamment des courses comme en Turquie où. Je ne sais pas ce qui se passe, il se retrouve au fond, puis il double tout le monde, mais comme s'il était seul au monde, quoi. Et là, on se dit, OK, là, il y a quelque chose de vraiment spécial. Il a réussi à mettre le talent, on l'avait vu, mais il a réussi à associer le talent avec l'intelligence de course. Et là, on s'est dit, oui, ça y est, c'est parti. Qui plus est, il avait McLaren encore derrière lui. L'avenir était tracé pour lui. Après, d'ici là, à dire qu'il allait gagner 100 Grands Prix, je pense que personne ne pouvait l'imaginer. Début de carrière explosif chez McLaren. Et après, ils décident de partir chez Mercedes, alors que Mercedes, à ce moment-là, honnêtement, ils sont un peu nulle part, ils ne gagnent pas forcément des courses. Et là, on se dit, l'hiver, quand ils signent chez Mercedes, mauvais choix, quoi. C'est clairement, McLaren était là, ils gagnaient des courses, ils gagnaient le championnat, et là, tout d'un coup, on part chez Mercedes, qui revient, on ne comprend pas trop le projet Mercedes. Et puis, voilà, quelques années après, il a 100 victoires à son compteur et de nombreux titres, donc c'est surtout ça qui a fait sa force, et notamment il a eu le courage de partir chez McLaren pour aller dans une équipe qui était clairement dans une moins bonne position.
Et en construction, oui.
Voilà, il a réussi à construire autour de lui une machine de guerre, et voilà, et puis après, on a l'impression qu'il ne baisse pas de performance avec l'âge, quoi. Il se bat contre Verstappen, qui lui... Et tout jeune, Verstappen, il se bat pour son premier titre. Il a les dents qui traînent par terre. Il est motivé, mais Hamilton, il lâche rien, quoi. Il est beaucoup plus âgé. Oui, à cet âge-là, ça commence à compter. Et malgré ça, on a l'impression qu'il perd pas du tout de performance. C'est ça qui est impressionnant, quoi. C'est sa régularité, quoi. Sur une saison, il fait très peu de fautes. Alors oui, il a toujours une faute ou deux, mais il faut pas oublier que maintenant, les saisons, elles font 20 Grands Prix ou plus. Donc, et puis au niveau d'attaque, au niveau où il est, de performance où ils sont, forcément, il y aura toujours une erreur ou deux, mais par rapport au reste du plateau, c'est rien, quoi. Et on voit à la fin, si on regarde les points au championnat, par rapport aux concurrents, c'est monstrueux.
Ouais. C'est stratosphérique. Stéphane, une question, je t'ai coupé tout à l'heure.
Oui, une petite question juste sur ces années Mercedes que tu viens de mentionner. Et il se bat en fait contre Rosberg, un petit peu comme il se bat aujourd'hui contre Verstappen. Ça allait peut-être un petit peu moins loin dans les frictions. Mais Rosberg aussi, tu l'as vu arriver, tu l'as vu en Formule 3, en GP2. Qu'est-ce que tu penses de ce pilote aussi qui a peut-être pas eu la reconnaissance méritée? Il a eu un titre au mondial, il a quand même lutté pendant 3 saisons contre Hamilton. Et je trouve qu'il a fait un step plus grand encore de F3 à GP2 vers la F1. Et on ne le voyait peut-être pas à ce niveau-là.
Alors, Nico, ouais, c'est un autre style de pilotage. Et pareil, lui, il est arrivé de la F3, la première année de la, c'était la première année de la GP2. C'est vrai qu'en F3, il n'avait pas forcément brillé. Hein,
Dans son team Rosberg,
voilà,
la première
Team
année.
Rosberg, il avait fini 4, je crois qu'il finit quatrième au championnat, non, il devait finir troisième. Et pareil, en GP2, il arrive première année avec ART et puis il arrive à gagner ce titre, mais je dirais de manière beaucoup plus réfléchie, stratégique, peut-être moins impressionnant qu'un Hamilton en termes de pointe de vitesse, mais super réfléchi quand même. Oui, c'est sûr, un pilote très complet, quoi, on va dire, et qui était tout le temps là, dans tous les bons moments, et qui faisait très très peu de fautes. Et après, évidemment, oui, il était chez Mercedes et il a réussi quand même, oui, sur une saison à battre Lewis. Et au final, c'est le seul qui lui a vraiment fait concurrence, quoi. Donc,
Ouais.
bravo à lui. Après, son choix de se retirer comme ça, c'était étrange, hein, honnêtement. Dans le milieu, c'est sûr qu'à son âge, après avoir accompli ce qu'il avait accompli, c'était un peu choquant de le voir se retirer comme ça. Mais d'un autre côté, après, avec du recul aussi compréhensif, hein, quand il a expliqué qu'il devait tellement se donner, tellement se battre et puiser au fond de lui-même pour se battre avec Lewis, qu'il a réussi à le faire une année et puis qu'il a décidé que c'était le moment d'arrêter, probablement parce qu'il imaginait que ça serait difficile à reproduire. Et c'est là que la force de Lewis, elle est extraordinaire, quoi. Il se bat
La
une année, il
longévité.
revient l'année d'après, il revient l'année d'après, il fait une faute, il revient à la course d'après, il n'arrête pas, il ne lâche rien depuis plus de 10 ans maintenant, quoi. Et c'est ça qui fait aussi sa force aujourd'hui. Et puis c'est ça qui fait forcément les 100 victoires et tous ces titres, quoi.
Comment est-ce que tu trouves le management de Christian Horner, qui a été ton boss chez Arden en
Ouais, tout
GP2?
à fait. Alors.
On a l'impression, pour tout dire, que lui, il est un petit peu suiveur par rapport à Helmut Marko, qui allume des petites bombinettes à droite à gauche dans les médias, et que lui, il suit, et que c'est la guerre des mots. Là, vraiment, on est dans le mind game. Est-ce que tu le percevais comme ça à l'époque? En plus, c'est un ancien pilote, donc il comprend vraiment bien les problématiques. C'est quelqu'un qui a piloté en Formule 3000. Comment est-ce que tu le voyais, toi, en tant que patron, et comment est-ce que tu le vois aujourd'hui?
Ouais, moi quand je suis arrivé en fait chez Arden, c'était son équipe qu'il avait créée, qui était encore assez jeune. Et en fait, il venait d'être promu chez Red Bull pour prendre le contrôle de toute l'équipe, qui était loin d'être au niveau où elle est
Ouais.
aujourd'hui, hein. Et c'est vrai que Christian, déjà, il est super intelligent, quoi. C'est quelqu'un qui est très très smart et qui comprend vraiment la course, comme tu as dit, parce qu'il l'a vécu. Il a été pilote automobile lui à un bon niveau, donc il comprend la problématique des pilotes. Et ouais, non, c'est sûr que c'est un mec qui a une super analyse de la course, qui est très sharp. Et voilà, et derrière, Helmut Marko, lui, il pousse, c'est sûr qu'il pousse à l'extrême, comme toute leur filière, quoi. C'est vraiment, ça passe ou ça casse, on pousse jusqu'au bout. Et voilà, il y a des côtés positifs, il y a des côtés un peu négatifs. Tout le cinéma, je trouve qu'ils ont fait après Silverstone, je trouve qu'il n'était pas forcément nécessaire, je trouve que c'était un peu déplacé. Et je trouve qu'ils auraient mieux fait de se concentrer sur la prochaine course. Maintenant, voilà, leur filière, toute leur manière de faire, elle est brute, elle est dure, mais aujourd'hui, elle a quand même fait ses preuves et ils ont quand même amené cette équipe à un niveau qui est incroyable, quoi. Et en face de ça, on a Toto Wolff, qui est aussi un personnage super intelligent, qui comprend aussi la course et qui a aussi amené Mercedes à un niveau incroyable. Donc voilà, non seulement il y a les deux pilotes qui sont certainement parmi les deux meilleurs pilotes de l'histoire, mais c'est clair que derrière, il y a aussi deux teams principales qui sont incroyables.
Stéphane, il a prononcé, Nicolas Pierre a prononcé un mot qui va attirer ton attention. Il a parlé de filière. On en a parlé à plusieurs reprises, hein, dans Les Fous du Volant. On a le sentiment parfois, Stéphane, que les filières, ça fonctionne un peu de manière un peu bizarre. T'as pas une question à poser à Nicolas là-dessus?
Oui, bien sûr, parce que finalement, est-ce que tu n'as pas le sentiment aussi qu'il t'aurait manqué ce soutien à l'époque où tu étais Formule 3, GP2? Il y a même eu Kovalainen qui était couvé par Renault, qui était ton coéquipier chez Arden en GP2, qui a eu sa place. Il y avait Lewis Hamilton qui était couvé par McLaren, etc. Rosberg aussi, par une autre marque. Et puis il y avait Tell aussi qui arrivait. On sentait cette émergence-là. tu les as regardés, ces pilotes-là, monter en F1 et tu t'es certainement dit qu'il te manquait quelque chose et peut-être que le système ne fonctionnait pas très bien, mais 15 ans plus tard, on en est au même point quasiment.
Alors moi, enfin de manière tout à fait honnête, clairement, moi j'ai eu une super carrière en monoplace. J'ai gagné notamment Macao. Et puis après, en GP2, j'ai eu un peu l'effet inverse de Hamilton ou Rosberg, où en F3, j'ai fait un très beau parcours. J'ai fini troisième championnat d'Europe, je gagne Macao. Et malheureusement, quand j'arrive en GP2, j'étais bien, hein, j'ai gagné quelques courses en GP2, j'ai fait des belles perfs, j'ai fait beaucoup de podiums. Mais je n'ai pas eu cette étincelle qui a fait que j'étais un Hamilton ou un Rosberg ou ce type de personnage. Et j'étais à un bon niveau, mais pas au niveau, honnêtement, pas au niveau requis pour aller à la F1, clairement. Et ça, je le reconnais. Et voilà, et tout à coup, j'ai eu la chance et l'opportunité de me tourner vers l'endurance, qui était certainement un milieu qui me correspondait beaucoup mieux. Dans le sens où en endurance, on n'a peut-être pas besoin de ces deux, trois derniers dixièmes sur un tour pour aller chercher l'extrême de la qualif, comme peut le faire un Hamilton ou un Rosberg ou un Kovalainen à l'époque. Mais par contre, en course, si on arrive à être régulier, si on arrive à bien comprendre ses pneumatiques, la gestion de l'essence, là, on peut faire des moyennes de course, qui est au final le plus important, qui sont parmi les meilleures. Et puis, c'est comme ça que j'ai réussi à faire ma voie vers l'endurance, qui au final, je pense, qui me correspond beaucoup mieux, quoi, parce que j'ai réussi je dirais, à rouler à un niveau qui était meilleur que celui que je roulais en monoplace. Donc, moi, je ne regrette pas du tout d'avoir raté ce passage à la Formule 1. Je pense que j'en avais, pas que je n'avais pas les capacités, mais il y en avait d'autres qui avaient certainement un meilleur profil que moi à ce moment-là. Et puis, c'est vrai que, ben, disons, les vraies places en F1 qui sont données à des jeunes talentueux, si on se base que sur le talent, ben, il y en a une tous les 2 ans ou une ou deux, ça dépend des années, mais disons qu'au maximum, il y en a une ou deux par an, quoi. Et donc, du coup, moi, ben, l'année où je suis contre Hamilton ou contre Rosberg, ben, clairement, eux, ils méritent plus la place que moi. Et du coup, ben, d'un autre côté, je suis content d'avoir été en endurance et d'avoir fait la carrière que je fais aujourd'hui en endurance.
Bah écoute, je suis d'accord avec toi, Nico, je pense que Stéphane aussi, mais il y a très très peu de pilotes finalement qui arrivent à dire ça. Alors les années ont passé, on sent que tu as beaucoup mûri aussi, puis tu fais une très belle carrière aussi en endurance, mais honnêtement, ça n'arrive pas souvent d'avoir les propos que tu tiens, et c'est pour ça qu'on tenait à t'avoir en tant qu'invité, et on est d'autant plus heureux de t'avoir. Comment tu vois là, il reste 7 Grands Prix pour cette saison 2021. Il y a 2 points d'écart donc entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Comment tu imagines la fin de la saison? Et en filigrane, est-ce que éventuellement tu te risquerais à donner un pronostic?
Ah, c'est dur, hein, c'est dur, honnêtement. On voit que la Red Bull, elle a quand même l'air, sur les circuits où on n'a pas besoin de vitesse de pointe, elle a quand même l'air un tout petit peu mieux, honnêtement, en termes de châssis. Après, c'est tellement difficile, honnêtement, je ne me risquerai pas un pronostic, parce que, honnêtement, je pense que c'est un pronostic qui est quasiment impossible. Je pense qu'il ne faudra pas tomber. C'est clair que s'il y en a un des deux qui tombe sur une course et pas l'autre, ben là, ça va pouvoir clairement jouer le titre. Après, moi, ce que j'espère, c'est que ça continue comme ça. On continue à avoir des batailles intenses en piste. Et puis après, honnêtement, je n'ai pas vraiment de favori ou de chouchou. Je penche ni pour l'un ni pour l'autre. J'espère juste qu'on continue comme ça à avoir du sport auto de ce niveau-là.
On va passer à la troisième partie des fous du volant, Nicolas Pierre, si tu veux bien. Je ne sais pas si tu as vu, Stefano Domenicali, le président de la Formule 1, a donné une interview à nos confrères de Sky Sport pour évoquer le calendrier 2022. 23 Grands Prix il y aura la saison prochaine. On est parti sur 22 hein, cette saison déjà, avec 7 ou 8 week-ends où il y aura des courses sprint. La saison s'étalera de fin mars à Bahreïn à fin novembre du côté de Abu Dhabi. Grand Prix de France le 17 juillet. Enfin, je dis ça pour les gens qui veulent commencer à prendre les billets en espérant qu'ils ne changent pas la date au dernier moment. On remet un petit coup parce qu'on n'était pas content l'année dernière. Voilà, ça c'est un calendrier qui normalement doit être entériné le 15 octobre prochain. On a beaucoup parlé dans les fous du volant de ces sprints qualifiés. Qualification, tu vois, ces formats de week-end réduits à 2 jours et cette course sprint avant la vraie course du dimanche. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Je n'ai pas été un grand fan, pour être honnête. Ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment passionné parce qu'on est un peu entre deux, quoi. On se dit, bon, bah, OK, la qualif, au final, elle perd de l'importance parce qu'on sait qu'on a cette course qualif derrière. Alors que moi, je trouve que l'exercice de la qualification, ça fait quand même partie vraiment intégrante de la F1 et je trouve que c'est un moment qu'il devrait avoir. Enfin, quand c'est que la qualif, c'est le moment où il a l'attention méritée. Quand il y a la qualif plus la course qualif, au final, on se dit bon, bah, cette qualification, elle n'est pas aussi importante. Alors que voilà, la vitesse sur un tour, c'est ce qui fait la beauté. C'est là où on voit les pilotes à l'extrême limite et on voit les petites différences entre chacun des pilotes. Et moi, j'adore ça, quoi. Donc, j'ai pas été vraiment. Non, ça ne m'a pas vraiment plu, pour être tout à fait transparent.
Ton jugement va faire un grand plaisir à Stéphane Vrignot, qui n'a pas, pas du tout été branché. Stéphane, une question.
Oui, on se pose la question parce que la Formule 1 veut intensifier les programmes aussi. Et moi, je pars du constat que la Q3, c'est un format un petit peu fouillis à la fin, parfois. Tout se passe en fait sur une minute où c'est une déferlante à la fin et on voit deux bouts de virage d'un pilote, trois d'un autre, l'arrivée d'un tel et puis on nous annonce que c'est encore un autre pilote qui est en pole position, c'est pas très lisible. Est-ce que tu penses qu'on devrait aussi un petit peu s'inspirer de l'endurance ou avec une hyperpole ou alors faire passer les pilotes un à un pour avoir vraiment du spectacle, pour les admirer, créer une sorte de Q4 à la fin, pour les voir un par un et apporter quelque chose de plus au show, quoi, plutôt que d'essayer de faire des expérimentations. Toto Wolff a parlé de là, il faut arrêter les expérimentations freestyle. On est un petit peu là-dedans. Il y a une sorte de malaise quand même qui s'installe. Quelles seraient, toi, tes idées ou tes solutions?
Honnêtement, après, le mieux est l'ennemi du bien. Moi, je trouve que le format actuel, il est quand même super. Alors après, clairement, comme tu dis, c'est vrai que c'est frustrant. Des fois en Q3 de rater le tour où c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réalisateur qui est sur la bonne personne ou celui qu'on voudrait voir. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu frustrant et que l'idée d'une superpole, d'une hyperpole où les pilotes passent chacun leur tour, ça fait du sens en termes de retransmission. Après, sportivement, ça fausse toujours un peu les clés parce que la piste, elle évolue toujours.
On le voit en Formule 1, hein. On le voit
ouais,
en Formule 1.
C'est vrai qu'en Formule 1, bah, le premier groupe, il y a des pilotes qui sortent un peu de nulle part, qui se qualifient devant. Et sportivement, ça fausse un peu la donne, surtout sur une année comme cette année en F1, où il y a quand même eu quelques qualifs sur des pistes séchantes, par exemple, ou des pistes trempées. Bah, là, clairement, s'ils étaient passés l'un après l'autre, on n'aurait pas forcément eu un résultat logique, quoi. Donc, la solution miracle, honnêtement, je ne l'ai pas. Je comprends la problématique. En tout cas, je trouve que la course qualif, c'est clairement pas la solution. Après, peut-être faire une hyperpole vraiment ciblée sur les 5 derniers, comme tu dis, et essayer de les voir les uns après les autres. C'est à travailler. C'est sûr que cette histoire aussi de sélection de pneumatiques, les 10 premiers doivent partir avec ses pneus, après, à partir du 11e, ils sont libres. Je trouve que tout ça, c'est un peu brouillon, ouais, clairement, et que ça mériterait un peu d'optimisation. Voilà. Après, le spectacle est là, le show est là, et je pense que ouais, moi, je ne me tournerai pas vers une course qualificative.
On parlait du calendrier aussi, Gilles. Donner ces 23 dates. On regrette parfois un clash entre les 24 Heures du Mans et la Formule 1.
Ça sera le cas l'année prochaine, hein, d'ailleurs. Pardon Stéphane, je te coupe. Oui. Hein, ça sera le Grand Prix d'Azerbaïdjan pendant les 24 Heures du Mans. Tant pis.
Voilà, c'est ça. Alors, on trouve ça toujours regrettable. Est-ce que tu penses qu'il faudrait justement sanctuariser vraiment cette semaine des 24 Heures du Mans et on ne fait rien d'autre à côté, en tous les cas en Formule 1? Il y a un garçon comme Charles Leclerc aussi qui veut participer aux 24 Heures du Mans, peut-être avec Ferrari. Et c'est ce qui donnerait aussi du relief au championnat du monde d'endurance, aux 24 Heures du Mans, et ça serait un deal gagnant-gagnant.
Alors, c'est sûr que je pense qu'honnêtement, là, je pense que c'est plus le rôle de la FIA, hein, parce que c'est quand même elle qui chapeaute tous ces calendriers, qui devrait dire, écoutez, la semaine des 24 heures, voilà, pas d'autres événements importants. Je pense que c'est sûr que ce serait vraiment un gros pas en avant et ça serait bénéfique pour tout le monde, parce qu'au final, les fans, les passionnés, ils veulent regarder les deux, quoi. S'il y a une course en endurance que tout le monde veut voir, c'est les 24 heures du Mans, quoi. Donc, je trouve que c'est dommage de superposer deux événements. Après, la problématique, c'est le nombre de dates en F1, quoi. C'est 23 Grands Prix, c'est juste monstrueux. Et c'est clair qu'en termes de logistique, ça doit être vraiment un casse-tête pour les positionner, quoi. Et on a envie de se dire où est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Parce que c'est vrai que le personnel commence vraiment à souffrir et ça commence à faire beaucoup, quoi. Et chaque année, on se dit ça. Et puis chaque année,
Ils en
il y en
rajoutent
a encore plus, quoi. Donc, non, c'est monstrueux. Alors, on se dit, ouais, en NBA, les joueurs en basket, ils font bien plus de. Mais là, c'est des voyages, c'est des déplacements. Ils partent aux quatre coins de la Terre, quasiment. C'est bientôt un week-end sur deux, quoi. C'est vraiment monstrueux et je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Et ça, forcément, ça a un impact sur les autres championnats parce que vu que le nombre de courses augmente, forcément, le nombre de clashs augmente avec.
Et il faudrait peut-être aussi surveiller les clashs endurance WRC, parce que là, c'est pareil. On adore voir les pilotes de F1 aux 24 heures du Mans, mais aussi les rallyman. Et il y en a un qui se pose la question aujourd'hui, c'est Seb Ogier, qui voudrait faire sa reconversion chez Toyota, une équipe que tu connais très très bien. Est-ce que pour toi, ça peut fonctionner?
Bah, je suis partagé. C'est vrai que moi, le seul pilote que j'ai vu vraiment aller d'une manière impressionnante sur le rallye comme sur le circuit, c'est Stéphane Sarrazin. C'est le seul pilote, tu te dis, ouais, le mec, il roule à un niveau en rallye incroyable, il vient au circuit, il roule, et puis il saute de l'un à l'autre, et je ne sais pas comment c'est possible. Mais voilà, c'est le seul que j'ai vraiment connu qui puisse le faire. Après, on voit que la
Sébastien Loeb
passe.
n'avait pas été mauvais non plus.
Oui, mais Sébastien Loeb, quand on se dit il avait quand même enfin, le nombre de titres qu'il avait en rallye, le niveau qu'il avait sur l'asphalte, on s'est dit que quand il va venir en circuit, il va évoluer à un niveau de fou. Et malgré tout, par rapport à un Lopez, par exemple, hein, de WTCC, il était un cran au-dessous. Hein. Il était très bon, hein, je ne dis pas, mais il excellait pas au niveau qu'il a excellé en rallye, quoi. Et je trouve que la passerelle est quand même difficile, quoi. Alors, je pense qu'il faut se donner le temps, il faut se donner les moyens de le faire comme il faut, mais le switch, si on veut exceller vraiment, parce que Sébastien Ogier roulera chez Toyota que s'il excelle, il faudra qu'il soit au niveau d'un Buemi, au niveau d'un Lopez, et ça, je pense que c'est pas facile. Et on n'a jamais vu quelqu'un réussir à le faire. Et alors, la marche inverse, c'est encore plus compliqué. Là, on a vu avec un Raikkonen ou un Kubica, ou de passer du circuit au rallye, là c'est encore un autre step, mais je suis curieux. En tout cas, c'est un super challenge et c'est intéressant. C'est sûr que ça va être super intéressant, mais c'est un gros morceau qui l'attend quand même.
Ça m'inspire une question qui n'était pas prévue. Toi, est-ce que tu t'imagines faire une tentative dans une autre discipline que l'endurance? Si là on te disait, bah vas-y, choisis Nico, il n'y a pas de problème, tu vas où tu veux.
Ouais, bah écoute, j'étais allé faire des tests en formule électrique. DS m'avait demandé de faire des tests en formule électrique il y a 2 ans. Et c'est vrai que bah, techniquement, je m'étais régalé parce que c'était vraiment une catégorie qui évolue à un niveau technique impressionnant. C'est un peu la pointe de tout ce qui est récupération d'énergie, gestion d'énergie. Et c'était super intéressant. En termes de pilotage, je ne dirais pas que c'est là que j'ai pris le plus de plaisir. Mais au niveau technique, c'était très pointu. Et voilà, ça m'avait bien plu. Après, moi, maintenant, aujourd'hui, je suis ancré en endurance. Je roule aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Et aujourd'hui, c'est ce qui me plaît. C'est là où je suis à l'aise. Comme je vous l'ai expliqué avant, je pense que c'est là où je suis le meilleur. Donc, je n'ai pas forcément envie de me tourner vers d'autres choses. Après, voilà, aller faire les bonnes. Enfin, ce qui est bien en endurance, c'est qu'on peut aller faire les 24 heures de Daytona, on peut aller faire les 24 heures du Mans, on peut courir en Asie. Enfin, il y a plein de choses. Il y a les 24 heures de Spa en GT. Il y a vraiment beaucoup de courses. C'est assez divers et varié. Donc, il y a de quoi s'occuper, quoi.
Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, Stéphane. On est d'accord?
Bah
On est bien
écoute,
là?
oui, mais alors comme on parle d'avenir, est-ce que un petit mot sur un pilote, un coup de cœur en
Ah oui.
Formule 1, le jeune, le pilote du futur, on va dire, parce qu'on a beaucoup parlé de Lewis Hamilton et de Max Verstappen, c'est l'évidence. Maintenant, qui vois-tu poindre dans les 4-5 ans pour contrarier Max Verstappen quand Lewis Hamilton aura pris sa retraite?
Ben, il y en a deux pour moi qui clairement sortent du lot. Hein. Russell aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ce qu'il fait avec la voiture qu'il a, quoi. C'est incroyable. Bien que Williams continue vraiment à fond à jouer le jeu, de développer cette voiture, et je pense qu'ils ne sont pas trop focalisés sur l'année prochaine parce qu'ils veulent vraiment avancer. Mais clairement, ce qu'il fait avec cette voiture, c'est incroyable. Et dès qu'il y a des conditions un peu difficiles, paf, il est là, quoi, hein. Dès que ça nivelle un peu le niveau des voitures, il est là, il ne fait jamais de faute, il est solide. On voit qu'il a une super entente avec son équipier. L'équipe est derrière lui. Donc voilà, super intéressant de voir ce qui va se passer l'année prochaine chez Mercedes. On va retomber, je pense, un peu dans un. Clairement, il va y avoir un léger conflit entre les deux pilotes, hein, parce
Ouais.
que là, c'est vraiment deux pilotes de très très haut niveau.
le léger est peut-être de trop là.
Voilà. Non, mais je pense que voilà, Toto Wolff va de nouveau avoir des petits
Il va
soucis
ressortir ses
ingérables.
fiches, Lewis Hamilton, Nico Rosberg.
Voilà, exactement. On va retomber un peu dans le même schéma. Sauf que là, c'est deux pilotes qui ne sont pas du tout au même stade de leur carrière. Et voilà, ça va être intéressant de voir comment l'équipe évolue autour de ça. Les deux pilotes sont anglais. Donc, ça va être intéressant. Honnêtement, ça va être intéressant. Et après, le deuxième que je vois sortir du lot, c'est Lando Norris, qui est frais, qui va vite, qui est rapide, qui ne se pose pas de questions et qui a un potentiel énorme, quoi, parce qu'il est encore très jeune au niveau de sa carrière en F1, au niveau de son âge. Et je pense qu'il y a un gros, gros potentiel derrière. Après, voilà, on sait que maintenant, il est lié à McLaren pour quelques années. Donc, est-ce que McLaren va vraiment franchir le pas et puis lui permettre d'aller vers l'avant? Je trouve que l'arrivée de Seidel chez McLaren a fait énormément de bien. On sent que l'équipe, elle s'est renforcée, elle évolue de manière intelligente.
Andrea Seidel, qui était l'ancien patron de chez Porsche à l'époque de l'endurance. C'est pour ça que toi, tu le connais bien.
Qui est parti de chez Porsche pour aller chez McLaren et qui fait du super boulot. Je trouve qu'au niveau technique, c'est intéressant ce qu'ils font. Le fait d'être allé chercher Ricciardo, c'était assez intelligent. Et voilà, ils ont une bonne line-up, ils sont dans une bonne dynamique. Est-ce que ça sera suffisant pour aller au niveau de Red Bull et Mercedes? C'est un peu tôt pour le savoir. Avec le nouveau règlement l'an prochain, les cartes vont clairement être redistribuées. Et voilà, mais ça serait chouette. Honnêtement, ça serait chouette de voir un McLaren comme ces derniers courses, revoir cette McLaren au niveau. On sait qu'ils ont la line-up pour se bagarrer devant, donc voilà, ça va être intéressant.
On va abuser de toi encore quelques secondes. Alors, on voudrait que tu nous dises un mot aussi de nos deux Français qui ont chacun remporté un Grand Prix quand même en F1. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait. Toi, tu as fait un peu partie de cette génération qui a vu passer les trains de la Formule 1. On va commencer par ton coéquipier, Esteban Ocon, vainqueur en Hongrie. Qu'est-ce que tu penses de ce garçon? Maintenant, il a gagné une victoire. Est-ce qu'on peut espérer un jour, un Esteban Ocon se battre pour un titre mondial chez Alpine, par exemple.
Ouais, ben je pense qu'il en a le potentiel, clairement. Esteban, il a bougé quand même d'équipe, c'est pas facile. Et là, il arrive avec Fernando Alonso à
En
côté de
plus.
lui. C'est pas simple, hein, pour un pilote de se confronter à Fernando, et je trouve qu'il fait vraiment le taf. Il a eu un petit coup de moins bien et on a senti que bah, clairement, ce coup de moins bien, il a été déjà identifié. On ne s'est pas caché en disant que tout allait bien. Il a été identifié et je sais qu'il y a eu un gros travail de fait. Et clairement, il est revenu à un super niveau. La course qu'il fait en Hongrie, elle est juste magnifique. OK, il y a ce chaos au départ, il arrive à sortir là où il sort, mais
Il faut
surtout après,
tenir Vettel derrière quand même, hein.
voilà, tenir tête à Vettel, ne pas faire une faute de toute la course. Une bonne stratégie, et voilà, je veux dire, être en tête d'un Grand Prix de F1, ça doit cogiter en haut, quoi. Donc voilà, il a fait toute la course de manière très solide, et je pense qu'il y a un gros potentiel, ouais, clairement. Donc on espère que avec Alpine, voilà, les choses vont progresser et puis qu'ils vont aller plus régulièrement sur les podiums l'année prochaine. Et après, Pierre, bah, lui, magnifique, quoi. Je veux dire, quand tu m'as demandé les pilotes talentueux, c'est vrai que j'ai pas cité Pierre, mais je pense qu'il fait partie voilà, des gros. Après, est-ce qu'il va réussir à tomber dans une équipe qui lui permette de montrer son talent? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, il porte l'équipe à bout de bras, quoi. C'est incroyable. Il est là quasiment toutes les courses dans les points, il fait des coups d'éclat, alors que ce n'est pas vraiment son coéquipier qui l'aide, quoi. Aujourd'hui, son équipier qui a quand même un super niveau, qui a un beau potentiel. S'il est dans la filière Red Bull, c'est pas pour rien, hein. Aujourd'hui, on ne rentre pas comme ça dans cette filière. Il a fait des excellents résultats en GP2, quoi. Mais là, par rapport à Pierre, il est pas du tout au même niveau, quoi. Donc, je pense que Pierre fait une super, super saison. qui est difficile à juger parce qu'il est pas, il est dans une voiture qui est bonne, hein. Honnêtement, c'est une voiture qui a fait de gros progrès et qui est là, mais on aimerait bien le voir dans quelque chose d'autre, quoi, disons. Mais est-ce que ça, est-ce qu'il va réussir à sortir de là? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est vrai que je pense qu'il est arrivé chez, quand il est allé chez Red Bull, c'était certainement un tout petit peu trop tôt. Et sur une équipe qui est complètement tournée sur Max. Et
ouais.
Je pense que voilà, la marche était peut-être elle est arrivée un tout petit peu trop tôt. Il en a clairement les capacités. Aujourd'hui, c'est un pilote qui pourrait évoluer, je pense, vraiment pas très loin du niveau de Max. Et voilà. Donc, est-ce que Red Bull, après, ils sont un peu, eux, ils reviennent difficilement sur leur décision. Et remettre Pierre chez Red Bull, je sais pas si c'est envisageable ou pas. Maintenant, ils l'ont gardé dans une de leurs voitures quand même. Donc, voilà, les espoirs ne sont pas perdus. Mais j'espère, en tout cas, ils le mériteraient.
Merci beaucoup, Nicolas Pierre, d'avoir été avec nous pendant les fous du volant. On s'est régalé. Je crois que je peux parler au nom de Stéphane et te dire que vraiment, c'était ultra riche, ultra intéressant. On te donne la clé du studio. Tu reviens quand tu veux.
Avec plaisir. Avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci
à
Nico,
bientôt.
À bientôt.
Merci.
Salut.
Merci Nico, à bientôt.
Bon, c'était quand même un sacré moment avec Nicolas Lapierre. On ne va pas s'endormir quand même, hein, parce que dès le week-end prochain, la F1 reprend ses activités. Prochaine épreuve, donc le Grand Prix de Turquie. L'an passé, Lance Stroll avait obtenu la pole position et Lewis Hamilton s'était imposé au terme d'un Grand Prix complètement fou. On espère avoir à peu près la même intensité, on va dire. On verra bien si on a le même scénario ou pas. Première séance libre, vendredi à partir de 10h30. Les qualifications samedi à 14h et la course dimanche à 14h également. Ce podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast, comme vous voulez. Là, je suis encore sous le coup de mes échanges, de nos échanges avec Nicolas Pierre. N'hésitez pas. Alors là, aujourd'hui, si vous ne nous donnez pas 5 étoiles, je me rase la tête. Et puis surtout, abonnez-vous. Et comme ça, eh bien, vous retrouverez les prochains numéros directement sur votre smartphone. Stéphane, je sais qu'on a tout dit, c'était génial. Je te laisse dire le fin mot.
Voilà le mot, notre conclusion traditionnelle. On coupe
le contact. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
À bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.